Bien, bonjour, enfin, je m'excuse, mais pour ma part, je pense que je vais poursuivre en français, même s'il y aura un petit soupçon d'accent. Je remercie Bruno et tous les organisateurs de m'avoir invité à cette journée, et que je remercie vraiment d'avoir organisé, bon, bien sûr, pour l'intérêt scientifique que ça a, mais aussi je pense que c'est une des meilleures façons de rendre hommage à Yves Brossard. Alors, le sujet que je vais traiter est beaucoup plus basique. On m'a demandé de parler de l'intérêt et des limites de la prévention telle qu'elle avait été définie en 2005. La diapo que je m'étais engagé à fournir. Alors, je vais revenir rapidement sur les bases et sur l'historique de cette prévention avant d'envisager l'état actuel. La base, bien sûr, l'alcoolémisation rhésus est la principale cause. On a vu ce matin qu'il pouvait y en avoir d'autres, des plus rares. La prévention, et on vient de le voir, est basée sur l'injection d'immunoglobuline passive, qui va éviter cette réaction primaire. Et plusieurs stratégies entre rien et ce qui est recommandé aujourd'hui ont été faites dans le temps. Actuellement, ce qui est recommandé depuis 2005, c'est la prévention postnatale ciblée et l'injection systématique. Dans un bref historique, l'immunoprophylaxie du postpartum a été proposée depuis 1969. Ensuite, très rapidement, s'est rajoutée une prévention lors des interruptions médicales de grossesse, ou des interruptions de grossesse tout court, plus un certain nombre de gestes jugés à risque. Ce qui a permis, c'est ce qui a été très efficace, parce que ça a réduit par 10, en quelques années, l'incidence de cette immunisation, avec deux constats, une mise en œuvre qui était assez variable et une absence de couverture des hémorragies fœto-maternelles occultes, surtout au troisième trimestre. Donc on arrive au contexte de CRPC. En fait, lorsque on s'est penché sur la question, persistait un certain nombre d'immunisations résiduelles, à peu près 700 par an. Les trois quarts étaient liés à une prévention qui était soit oubliée, soit inadaptée, et un quart à des hémorragies fœto-maternelles survenant surtout au troisième trimestre. À ce moment-là, il n'y avait pas de recommandations, il y avait des habitudes, mais une absence de recommandations formalisées, contrairement à la plupart des pays d'Europe du Nord et anglo-saxons. À ce moment-là, Natead, le seul produit qu'on utilisait, arrêtait sa commercialisation, était remplacé par Rofilac, et lequel Rofilac avait une AMM européenne, en plus avec une prévention systématique acceptée, validée par l'AFSAP sans réserve. Donc voilà un petit peu le contexte. En ce qui concernait cette prévention systématique, la France était un des quelques pays où il n'y avait pas de prévention systématique, contrairement à plusieurs pays avec plusieurs protocoles possibles, soit une dose unique, soit deux, soit une période unique, soit deux périodes pendant la grossesse. Donc en 2005, plusieurs sociétés, dont le CNRHP, le CNGOF et la Société française de médecine périnatale, ont décidé qu'il était temps de faire des recommandations avec trois objectifs principaux. D'abord, améliorer ce qui se faisait. Ensuite, adapter les nouveaux produits imposés par le marché aux start-up français avec un certain nombre de critères. Et ensuite, se positionner vis-à-vis de la prévention systématique en cours de grossesse. Il avait été précisé d'ailleurs à ce moment-là de ne pas changer nos habitudes malgré l'AMM européenne du Rofilac, en attendant qu'on ait statué. Et puis cette mise en place des recommandations était assez rapide. Alors ça a été terminé en fin 2005, il y a 10 ans, et publié en février 2006. Brièvement, ces recommandations, en fait, elles ont porté sur 5 principales mesures, 5 éléments qui sont marquants, je pense. D'abord, formaliser la stratégie de la prévention ciblée en différenciant les situations à faible risque des situations à risque élevé d'immunisation, ce qui pouvait avoir un impact sur les doses, mais aussi sur la pratique du cléoeur. La deuxième mesure était de mettre l'accent sur la quantification de l'hémorragie fœto-maternelle pour adapter les doses en adaptant la posologie au test de Cléauer et en demandant la diffusion. Plusieurs maternités adoptaient à cette époque la stratégie des anticorps passifs. En fait, il a bien été rappelé que c'était le Cléauer qui devait être utilisé et cette diffusion a été en fait facilitée, bien entendu, par la mise de la nomenclature. La troisième principale mesure, c'était la traçabilité et l'information des patientes à travers un carnet qui permettait cette traçabilité, puis un document proposé pour les informations. La quatrième mesure était de proposer d'associer le génotypage rhésus fœtal non invasif lorsqu'il était accessible. Il était écrit clairement que lorsque ce test était accessible, on recommandait de l'adopter pour pouvoir réduire le nombre de préventions qui étaient inutiles, 30 à 40% des cas. Et enfin, il a été proposé de mettre en place la prévention antinatale de routine par une dose de 300 gamma d'immunoglobuline, Rofilac, seul produit disponible, chez toutes les femmes rhésus négatifs non immunisées et dont le conjoint était rhésus positif ou de groupe non connu. Alors, cette prévention avait été adoptée avec beaucoup de discussions sur la base d'articles et puis de méta-analyses réunissant des essais randomisés qui montraient que la réduction de cette immunisation spontanée au cours de la grossesse était réduite d'un facteur 3 à 5 lorsqu'on a adopté cette technique. Ça a suscité beaucoup de discussions, beaucoup de débats aussi. Ces réticences étaient basées sur un certain nombre de faits. D'abord, une efficacité qui n'était pas parfaite, une réduction de 80% de la période de grossesse, hein, pas celle postnatale, bien entendu. Un traitement inutile chez 30 à 40% des femmes qui étaient rhésus négatifs et qui avaient un enfant in utero rhésus négatif. Un risque d'immunisation du troisième trimestre qui est malgré tout faible, aux alentours de 1% par rapport à ce qui se passe après l'accouchement, donc un rapport coût-bénéfice qui paraissait élevé pour certains, et puis bien sûr une crainte persistante de transmission d'agents infectieux par ces produits d'origine humaine, même si cela n'a jamais été montré réellement. En 2013, la Cochrane avait conclu aussi à ce que cette administration d'immunoglobuline en cours de grossesse réduisait de 1 jusqu'à 0,2%, donc était efficace pour prévenir cette immunisation. Évidemment, étant donné que c'était prescrit dès la première grossesse, le bénéfice n'était pas à attendre forcément au cours de la grossesse en cours, même peu probable, mais était surtout un bénéfice à attendre potentiellement à étudier pour les autres grossesses. Donc, qu'est-ce qu'il en a été de cette diffusion de prophylaxie en Europe et en France? En Europe, en fait, ce qui a été surtout discuté dans les pays qui avaient adopté cette prophylaxie, c'était de savoir est-ce que ça valait la peine de le faire pour toutes les grossesses ou est-ce qu'on pouvait se limiter à la première grossesse. Alors, des travaux ont montré que, et ça peut paraître évident, que lorsqu'on fait une prévention, enfin, c'est une étude qui est parue en 2014 sur une étude prospective réalisée en Croatie, qui adopte une prévention ciblée et qui étudiait de façon rétrospective la gravité de l'immunisation en fonction de l'ordre de la grossesse en cause de l'incompatibilité. Et cette étude montrait que les cas les plus sévères sont les conséquences d'une immunisation survenue au cours d'une première grossesse. Bon, ce qui peut être intuitivement logique, étant donné que ce sont peut-être les femmes les plus immunogènes qui vont s'immuniser lors de cette première grossesse. Mais pour ce qui concerne la diffusion, aux Pays-Bas, enfin, je vous citerai deux articles. Aux Pays-Bas, un article paru en 2008. Alors, aux Pays-Bas, la prévention est limitée au Nulipar depuis 1998, avec une seule injection à 30 semaines. Une bonne compliance. Et il a été effectué une étude comparative historique entre un groupe de femmes qui avaient bénéficié lors de la grossesse, lors de la première grossesse, d'une prévention, versus un groupe témoin de femmes enceintes de même parité, mais qui n'avaient pas bénéficié, c'est-à-dire dont l'accouchement avait lieu avant la politique de prévention. Et ce travail avait évalué, pour la grossesse suivante, le taux d'immunisation à 12 et 30 semaines et la fréquence des formes sévères. Donc, brièvement, la conclusion, à 12 semaines, bien entendu, il y avait moins de femmes immunisées dans le groupe qui avait été prévenu. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à 30 semaines, l'incidence des immunisations, c'est-à-dire les nouvelles immunisations, était réduite de moitié lorsqu'il y avait eu, lors de la première grossesse, une prévention, de même que le taux de forme grave était également réduit à peu près de la moitié. Donc la conclusion, c'était que lorsqu'il y avait une prévention, pour les grossesses suivantes, il y avait une diminution de 50% de l'incidence de nouvelles immunisations avec diminution des formes graves. Et les auteurs ne jugent pas nécessaire d'étendre la prévention à toutes les femmes et de le maintenir au premier geste. Une autre étude de McKenzie en 2008 avait à peu près la même conclusion, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni, il y a une prévention de 100 microgrammes à 28 et 34 semaines. Et dans ce travail, le taux d'immunisation anti-D observé avec une prévention uniquement chez la nulipare, donc lors de la première grossesse, était comparé au taux théorique attendu selon le modèle du NICE si la prévention avait été pratiquée chez toutes les patientes. Et les auteurs observent que dans cette comparaison, qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux populations. Et les auteurs déduisent que la réalisation d'une prévention restreinte au nulipare pourrait être suffisante. Donc les conclusions textuelles sont que la prévention lors d'une première grossesse continue en fait à réaliser une prévention pour les autres grossesses, même si le mécanisme n'est pas clair, et que cela peut faire discuter les recommandations du NICE qui préconisent une prévention pour toutes les femmes. En France, qu'en est-il? Alors, ça s'est mis en place progressivement. Il n'y a pas eu de réelle enquête nationale publiée. Il n'y a pas de registre réel aussi de l'alloimmunisation en France. Donc, l'incidence est encore imparfaitement connue. Une des estimations indirectes qui peut se faire, c'est à travers les ventes d'Orofilac 300, qui est plus modélisée pour cette prévention systématique au troisième trimestre. Et là, bon, je remercie donc le laboratoire CSL Behring de m'avoir transmis récemment ces chiffres-là. Si on regarde le taux d'unités vendues d'Eurofilac 300 entre les années 2007 jusqu'en 2014, en se basant sur bon modèle très simple, à 800 000 grossesses par an en France, 15% de femmes rhésus négatifs et 120 000 femmes qui sont éligibles théoriquement pour la prévention. Donc théoriquement, il faudrait exclure les femmes qui ont un enfant rhésus négatif, mais elle se fait en pratique, donc on va faire abstraction de ça. Et si on regarde donc la comparaison 61 000 par rapport aux 120 000 théoriques, ça nous ferait 51, on va dire aux alentours de 50% de couverture estimée dans les années 2007-2008 pour en arriver à peu près 15% de plus, 65,7% de prévention actuellement. Alors, après, on peut estimer, quelques enquêtes sont plutôt des enquêtes flash et assez limitées. On essaie d'estimer de façon un peu indirecte selon les régions et selon les CHU. Ça, c'est une enquête qu'avait réalisée Olivier Parent en mai 2012, donc j'ai pas voulu refaire. Il avait eu 20 réponses auprès des CHU français. Cette application de la prévention systématique est réalisée à peu près dans 90% des CHU. Qui ont répondu, seuls deux se sont opposés en estimant que l'intérêt médico-économique n'est pas validé. Une bonne traçabilité, effet indésirable exceptionnel, mais malgré tout un choc allergique. Le groupe du père est tenu en compte dans 75% des cas, et pour la pratique du génotypage fœtal non invasif, effectué fréquemment, une fois sur deux, mais souvent sur des bases d'antécédents d'allo-immunisation. Dans la région Midi-Pyrénées, plus je comparerai avec ma région, l'application des RPC, c'est-à-dire 67% des services qui ont répondu à un protocole de service, 89% appliquent la prévention systématique, deux refusent de le faire, et avec une traçabilité assez bonne. Et dans la gestion quotidienne rencontrée, c'est la gestion d'obtenir des agglutines irrégulières, et la qualité de l'information donnée à travers la fiche, la traçabilité, le contenu, les bénéfices-risques. Alors, je vais vous faire un petit peu un point rapide sur ce qui se passe dans ma région, dans la région PACA, en sachant que nous avons bénéficié, en fait, d'un financement, ce qui nous a permis de débloquer la situation du génotypage. Depuis 2008, l'ARS a financé le génotypage rhésus, ce qui a permis de financer 4500 analyses qui sont prises par an, qui sont prises en charge. Alors, le coût qui avait été évalué dans mon institution était de 125 euros par analyse, donc c'est ce qui est pris en charge par l'assurance maladie. Il y a une couverture régionale qui implique toute la région PACA et aussi la Corse, avec un circuit qui a été mis en place avec une collaboration avec l'EFS, également avec l'utilisation de navettes. En fait, il y a tout un circuit qui a été mis en place via les laboratoires privés et via l'EFS, de sorte à ce que les tubes puissent arriver à notre laboratoire de biologie materno-fœtale et qu'un rendu de résultats soit fait entre 1 et 1 semaine. Donc tout ça marche assez bien si on voit depuis le début du financement la progression des analyses faites. Actuellement, en 2014, on est aux environs de 4500 analyses réalisées, l'essentiel provenant de l'extérieur du réseau, les nôtres étant toujours stables, bien entendu. Alors, je voulais voir ce que ça donnait, mais ça aussi, c'est juste un marqueur assez ponctuel, sur une des deux maternités de l'assistance publique de Marseille, qui est une des trois maternités niveau 3 de la région PACA, si ça avait une incidence, enfin du moins un aperçu sur ce que ça pouvait donner en termes d'évolution de patientes qui présentaient des allo-immunisations anti-D. J'avais déjà fait ce petit travail il y a quelques années, entre 2000 et 2007, il y avait 67 patientes, et entre 2008 et 2014, on a eu 47 patientes. Donc, à la louche, il semble qu'il y ait une réduction de l'allo-immunisation anti-D. Et lorsqu'on regarde les formes sévères ou les formes moyennement sévères, c'est-à-dire qui entraînent une prématurité, ou les formes bénignes, j'ai l'impression, du moins dans mon centre, qu'il y a eu une réduction des formes sévères au profit des formes bénignes, en parallèle avec une réduction des allo-immunisations tout court. Donc peut-être une réduction à confirmer. Et en ce qui concerne l'origine de ces allo-immunisations, le travail que j'avais fait entre 2000 et 2007, il y a quelques années, montrait que, comme partout d'ailleurs, que dans 25% des cas, c'était un oubli de prévention. Dans à peu près 40% des cas, c'était une immunisation survenue en cours de grossesse et dans un tiers des cas, une origine incertaine. En fait, bon, il y a une réduction globale, mais l'origine, il n'y a peut-être pas grand-chose à en tirer, en sachant que l'incompatibilité liée et découverte pendant la grossesse est à peu près toujours la même proportion, avec une réduction d'oubli, le reste concernant une origine incertaine ou des femmes déjà immunisées auparavant. Ce que j'ai voulu faire aussi, c'était une enquête auprès du réseau sur la pratique. C'est-à-dire que j'ai mis ça en parallèle avec une enquête réalisée en 2007 et renouvelée en 2014. Les questions étaient simples. Est-ce que vous connaissez les recommandations? Est-ce que vous pratiquez la prévention systématique? Sinon, pourquoi? Et la question est nouvelle, bien entendu, en 2007, c'était beaucoup moins faisable. Est-ce que vous pratiquez le génotypage rhésus et quelles sont vos difficultés? Donc voilà très schématiquement les réponses. Bon, le nombre de réponses ici avec la provenance. La connaissance des RPC, du moins des gens qui ont répondu, est relativement bonne, même parfaite, si on se fie à ces chiffres. La recherche sur sang maternel, et je pense que grâce à la politique et surtout à la prise en charge financière, est excellente, 96%. L'injection systématique d'Orofilac, elle était de 94% en 2007, elle est devenue à 100% des réponses, bien entendu. Alors pourquoi 100%? Ce qui a fait changer d'avis, à l'époque, en 2007, c'est ce que j'avais demandé aux gens, pourquoi vous ne le faites pas? Alors il y avait la prise de position de certaines personnes célèbres, des injections, le reproche que l'on faisait d'injecter des patientes qui finalement n'avaient pas de risque parce que leur enfant était rhésus négatif, et ces gens disaient oui, mais je le ferais volontiers si jamais on pouvait disposer du génotypage. Le génotypage est disponible actuellement, donc ça a enlevé beaucoup de réticences. Le pourcentage de patients traités, assez important, une petite progression. Moins de difficultés. Parmi les difficultés évoquées, l'obtention des RAI récentes avant cette injection systématique, des patientes vues tard, le refus de quelques infirmières libérales, le coût. Bon, ça, c'est quelque chose effectivement qui reste encore, même si on a une prise en charge, mais du moins pour celles qui n'ont pas accès. L'organisation du prélèvement et la méfiance encore de certaines patientes. Donc, de tout ça, vous avez vu, il n'y a rien qui soit très scientifique, mais bon, ça nous donne une idée. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a très certainement des disparités régionales dans la pratique de la prévention systématique. Il semble que, mais à travers un marqueur qui est un petit peu flou et très ponctuel, que l'on observe une réduction de l'alluminisation rhésus grandé, du moins c'est ce que j'ai vu dans mon service. Et évidemment, ce qui est important, le génotypage qui peut lever beaucoup de réticences vis-à-vis de cette prévention systématique, et bien sûr, qui dit génotypage, va dire sa prise en charge financière. Le challenge des anticorps monoclonaux humains anti-D, bon, qui va être détaillé après. Et puis, bien sûr, le fait d'avoir l'importance d'avoir des chiffres qui soient fiables sur le plan épidémiologique pour savoir si ce qu'on fait est vraiment utile ou pas. Voilà, ben, je vous remercie de votre attention.